Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Graphite 94.9 et Graphite.net. Je suis Stéphane Crozat. Je suis en studio avec Camille Guichard, avec Flavie Garcia Forest, avec Gabriel Sell et avec Jean Rajonson. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors, vous êtes là tous les quatre réunis dans le cadre de la fin du cours que vous avez suivi qui s'appelle donc L'Hautéquisation et Numérique, un cours de l'Université de Technologie de Compiègne. Donc, dans le cadre de ce cours, vous avez travaillé sur un projet qui s'appelle Frama Let Me Go. Le nom est un peu cryptique, mais vous allez bientôt nous en dire plus. Dans le cadre de ce cours, l'objectif de ce cours, c'est de travailler sur une méthodologie de conception, d'ingénierie, de conception de produits et de services qui est orientée vers des valeurs socio-écologiques. Donc, par exemple, la soutenabilité, la responsabilité sociale ou la convivialité technique. Vous essayez de mobiliser des leviers un peu différents de ceux habituellement utilisés par les ingénieurs. En général, on se concentre sur l'optimisation, mais j'ai essayé de vous emmener un petit peu, on va voir ce que ça donne, mais sur la mobilisation de l'imagination ou même le fait de politiser votre conception. Voilà pour quelques éléments de ce que l'on voit dans le cadre de ce cours, mais je vais peut-être pas en dire beaucoup plus et puis vous laisser la parole, ou plutôt laisser la parole à votre extrait introductif.
Qui, en fait, va faire que l'humain garde le contrôle de la machine. Et que la machine ne puisse pas prendre le contrôle de l'humain. C'est ça le principe, avec un principe aussi de partage du pouvoir, parce que finalement, quand tu codes, c'est toi qui décides ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Et pourquoi est-ce que l'élite qui connaît le code aurait le pouvoir sur le reste du monde ? Ou les gens qui peuvent acheter l'élite qui connaît le code ? Tu vois ? Et donc, le principe du logiciel libre, c'est de dire non, ce pouvoir, on va le redistribuer en garantissant quelques libertés par un contrat légal qui s'appelle une licence libre. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette philosophie de dire on n'a pas envie qu'une élite se fasse à partir du savoir sur le code. On n'a pas envie que la machine contrôle l'humain. On a envie que les humains, les humaines soient libres, soient émancipés dans le monde numérique aussi. Donc, c'est pour ça qu'on fait le logiciel.
Très bien. Eh bien, vous venez d'entendre Piou et Pug, deux cofondateurs de Framasoft, dans une interview donnée à Blast le 14 janvier 2023 sur l'histoire de Framasoft et le rôle des logiciels libres. Aujourd'hui, on vous parle de Frama Let Me Go. C'est un projet qui cherche à répondre à une question simple, c'est-à-dire comment retrouver un Internet plus léger, plus sain et plus convivial. Face à un web devenu envahissant avec la publicité, le traçage, la surconsommation de ressources et la surcharge d'informations, Frama Let Me Go propose une autre voie, celle d'un Internet low-tech, frugal, accessible et pensé en commun. L'idée centrale du projet, c'est la création de collectifs décentralisés et ouverts, hébergés sur une plateforme appelée SiteCollect. Ces collectifs permettent aux internautes de se regrouper autour de valeurs et d'intérêts communs, tout en restant autonomes. Pour faciliter la découverte de ces communautés, nous avons imaginé un Frama moteur, un méta moteur de recherche personnalisé, ainsi qu'une extension qui s'appelle Blockit, qui applique automatiquement les règles choisies par les collectifs sur le Frama moteur. Derrière Frama Let Me Go, on trouve une diversité d'acteurs, des développeurs, des designers, des membres qui participent à la création et à la maintenance, mais aussi un large public d'associations, d'étudiants, de professionnels ou encore d'usagers peu sensibilisés à ces enjeux. Frama Let Me Go, c'est donc une initiation à repenser nos usages et à imaginer un web plus sobre, plus simple et surtout plus humain. Enfin, nous remercions Stéphane Brotzmeyer et Catherine Le Tondal pour leur supervision, ainsi que Julie Chartier pour sa contribution technique. Et surtout, merci à Stéphane Crozat pour l'encadrement dans ce projet.
Pour mieux comprendre le sujet et voir ce qui avait possiblement déjà été fait, nous sommes rentrés dans une phase de recherche. Parmi les œuvres qu'on a trouvées, nous avions l'extrait de conférences de Catherine Le Tondal et Sébastien Gavois, qui émettent des suggestions et proposent des axes de travail pour anticiper une potentielle dégradation du web actuel et une disponibilité limitée des ressources. Catherine Le Tondal précise que l'objectif n'est pas directement d'imaginer un numérique éco-responsable, mais force est de constater qu'il s'agit d'un effet de bord inévitable. S'adapter à un Internet et des ressources dégradées implique de proposer un navigateur résilient et un usage plus sobre, éco-responsable et en diminution. D'autres projets nous ont également inspirés, comme le 512 kilo-octets Club, un site internet qui référence lui-même un ensemble de sites qui ont pour point commun de faire moins de 512 kilo-octets. Ce que nous avons pu constater avec ce site, c'est qu'il est possible de référencer un grand nombre de sites internet, tâche qui peut paraître insurmontable, nous le comprenons, mais faisable. Nous avons également tiré de ce site le fait qu'il est tout à fait possible de faire de « beaux sites », entre guillemets, bien que le beau soit relatif, des sites internet qui soient accessibles et légers avec tout de même du style. On ne parle pas ici de site, d'un site qui est en noir et blanc avec aucune image par exemple. Après cette première phase dite d'étude et d'observation, on a commencé à réfléchir à des objectifs pour guider le développement de notre projet. C'est notre phase d'idéation. On s'est alors demandé comment serait-il possible d'accéder à des sites web plus frugaux, comment préserver un web convivial tout en maintenant un espace numérique et non marchand, et respectueux des utilisateurs, et d'autres objectifs formulés que vous pouvez retrouver sur le site lonum.scenari-community.org dans la section Framal et Migo. On a par la suite regroupé nos différentes idées en fonction de l'objectif auquel elles répondent. Par exemple, dans le second objectif qui était « Comment préserver un web convivial en maintenant un espace numérique non marchand, accessible et respectueux des utilisateurs ?» une idée retenue était un métamoteur de recherche. Ce métamoteur de recherche proposerait uniquement à l'utilisateur les sites web qui correspondent à ces critères, que ce soit pas de publicité, l'accessibilité, etc. Je donne maintenant la parole à Camille qui vous expliquera tout ça plus en détail.
Nous avons donc déduit 4 produits phares. En premier, les collectifs décentralisés et ouverts. Donc, dans les collectifs décentralisés comme Vipriv ou encore Sans Pub, les membres évaluent ensemble les sites web selon les critères éthiques. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de publicité, la vie privée, la sobriété ou encore les cookies. Ce sont les membres qui participent aux notations et aux débats lorsque certains sites sont trop difficiles à juger, ce qui permet de prendre une décision réellement collective. Les sites peuvent être réévalués au fil du temps, comme par exemple après les améliorations d'un site auparavant jugé trop énergivore. Il est bien sûr possible de créer de nouveaux collectifs pour répondre à des besoins émergents. Il s'agit donc de membres qui décident ensemble de quels sites sont acceptés dans leur collectif pour un web plus éthique, sobre et qui respecte leurs valeurs. Voilà par exemple un extrait de l'histoire de Maïva qui découvre les bénéfices d'une navigation low-tech grâce au stockage local des pages statiques. Donc Maïva est membre récente du collectif EcoWeb, un groupe engagé pour un web plus sobre et économe en énergie. Passionnée de randonnée, elle se souvient encore de sa mésaventure de l'été dernier, perdue en montagne sans réseau, son téléphone incapable de charger les cartes en ligne. Depuis cette expérience, cela l'a poussée à réfléchir à sa dépendance à Internet. En préparant une nouvelle sortie, elle découvre un moteur de recherche éthique, le Framamoteur, qui propose une fonction ingénieuse, le téléchargement automatique des pages statiques dans la mémoire locale du téléphone. Avant de partir, Maëva recherche le parcours, les points d'eau, la météo et les auberges alentour et enregistre le tout. Le moteur retient ses pages au format allégé, donc sans vidéo ni script inutile, avec seulement des photos essentielles pour ne pas surcharger le stockage. Au cœur du massif, le signal disparaît comme prévu, mais cette fois, Maëva garde accès à tout son historique de recherche, même sans connexion. Les pages s'affichent instantanément, sans publicité ni traçage. Le deuxième produit est donc le Framamoteur. Le Framamoteur est un métamoteur de recherche qui applique automatiquement les règles des collectifs auxquels l'utilisateur est abonné. Il affiche à côté de chaque résultat les validations et les notes attribuées par ces collectifs, permettant de repérer facilement les sites les plus fiables et les plus éthiques. L'utilisateur peut affiner sa recherche en activant ou désactivant certains collectifs ou en filtrant les résultats selon leurs notes. Il peut aussi choisir entre un mode intersection, donc les résultats validés par tous ses collectifs, ou union, validés par au moins un, ce qui lui offre une recherche plus ciblée ou plus large selon ses besoins. Et enfin, nous avons Blockit. Blockit est une extension de navigateur qui empêche automatiquement l'ouverture des liens menant vers des sites non validés par les collectifs auxquels l'utilisateur est abonné. Lorsqu'un lien non conforme est cliqué, Blockit bloque l'accès et affiche un pop-up expliquant le motif du blocage, accompagné des éventuelles notes d'autres collectifs. Par exemple, Kelly est abonnée au collectif Human Content, un collectif spécialisé dans la vérification des sites rédigés par des humains et qui rejette les plateformes reposant sur du contenu généré par l'IA. Elle est aussi abonnée au Vipriv et Sans Pub. Elle utilise quotidiennement l'extension Blockit pour l'authenticité des sites qu'elle consulte. Un jour, un ami lui envoie un lien d'un site internet qui n'est accepté par aucun de ses collectifs. Elle souhaite tout de même le voir. Lorsqu'elle clique sur le lien, un pop-up s'affiche et lui présente les potentielles notes que d'autres collectifs lui ont données. Comme elle doit absolument jeter un coup d'œil au contenu, elle décide d'y accéder quand même. Cependant, une fois qu'elle fermera la page, Blockit réactivera automatiquement le blocage ainsi que l'affichage du pop-up en cas de nouveau clic, garantissant que cet accès reste exceptionnel et limité. L'utilisateur peut alors choisir en toute conscience d'accéder exceptionnellement au site ou de rester protégé. L'extension garantit ainsi une navigation plus cohérente avec ses valeurs sans pour autant supprimer la liberté de choix.
Afin d'approfondir et critiquer nos idées, nous avons utilisé la partie analyse fonctionnelle de la méthodologie de l'autéquisation. Cela consiste, à partir de nos histoires, d'en extraire les fonctions. Une fois identifiées, nous les avons questionnées. Quelles valeurs portent-elles? Quels moyens permettent de les mettre en œuvre? Et enfin, quelles tensions peuvent-elles créer ou au contraire aider à résoudre? Prenons alors l'idée centrale de notre projet, les collectifs décentralisés. Voici ses principales fonctions. Le collectif décentralisé permet aux membres de noter sur 10 chaque site web, selon des critères communs. Le collectif décentralisé permet aux membres de réévaluer un site déjà noté suite à une mise à jour ou à une modification du site. Et enfin, le collectif décentralisé permet aux membres de consulter un indicateur d'écart type pour les notes attribuées à un site afin de déterminer les avis convergents ou divergents. De manière globale, ces fonctions portent d'abord des valeurs fortes comme l'équité, la solidarité, la pérennité et le partage. Tous les sites sont évalués selon des critères communs, ce qui évite les jugements arbitraires. Leur notation favorise également l'engagement des membres et crée un véritable sentiment de contribution, tout en valorisant la coopération. Elle mobilise également le levier commun, puisque les décisions sont prises ensemble à travers l'évaluation collective. C'est le groupe qui construit un jugement partagé. Cependant, ces fonctions révèlent des tensions. D'un côté, elles aident à résister à la désorientation du web en donnant une image claire et partagée de l'opinion des membres. Mais de l'autre, cette visibilité peut entraîner une forme de compétitivité entre les membres eux-mêmes. Voici maintenant quelques fonctions de notre produit SiteCollect. SiteCollect permet à l'utilisateur de consulter la liste de tous les collectifs existants. SiteCollect permet à l'utilisateur de s'abonner à un ou plusieurs collectifs. SiteCollect permet à l'utilisateur de gérer ses abonnements au collectif. Globalement, ces fonctions portent des valeurs d'autonomie, de solidarité et de partage. En effet, elles donnent à l'utilisateur une grande liberté dans la manière dont il peut construire son environnement numérique. Elles mobilisent également le levier préfiguration puisqu'elles encouragent une forme de navigation plus consciente et plus sobre, où l'on choisit réellement ce que l'on suit. Enfin, elles révèlent certaines tensions. D'un côté, le risque d'accumuler trop de collectifs et de retomber dans une surcharge d'informations que le projet cherchait justement à éviter. Et de l'autre, la multiplication excessive des collectifs, simplement pour faire plus de collectifs.
Pour conclure, nous avons tenté d'anticiper au mieux la manière dont nos outils pourraient être utilisés, ainsi que leur impact réel. Nous avons imaginé des scénarios ambitieux. Par exemple, que se passerait-il si 40% des internautes rejoignaient un collectif via SiteCollect? Un tel succès pourrait réduire le trafic vers les sites les plus énergivores, alléger le temps de navigation et le volume de données échangées, tout en renforçant la confiance grâce à une notation transparente. Mais ces bénéfices s'accompagneraient aussi de risques. Une plateforme jugée trop complexe, des conflits entre les collectifs ou encore des défis de modération et de maintenance qui peuvent faire diminuer l'activité d'un tel projet. Pour maximiser nos chances de réussite, nous prévoyons donc une phase pilote, des parcours d'apprentissage simples, des partenariats avec les universités et les ONG, ainsi qu'un déploiement open source afin d'encourager l'engagement, la contribution et la transparence. Nous sommes également interrogés sur la manière dont les productions du produit pourraient devenir de véritables communs, c'est-à-dire des ressources partagées, librement accessibles et gérées collectivement. On a aussi réfléchi à leur impact potentiel sur la souveraineté du web et des dimensions géopolitiques qui en découlent. Nous avons aussi envisagé des effets possibles si nos idées contribueraient à terme à de la fermeture d'infrastructures, à l'abandon de certaines pratiques ou même à une forme de décroissance numérique. Et puis, si notre projet vous intéresse, nous vous invitons à vous rendre sur la page lonium.fr pour voir plus de détails sur nos idées liées à Framel et Migo. Merci à vous pour votre écoute, merci à Stéphane Brotzmeier et Catherine Le Tondal pour leur accompagnement, et nous vous laissons avec la chanson Framamia de Abba, petit clin d'œil au projet Framamia. Get me.
Bonjour à toutes et à tous. On est en direct sur Graphite pour une émission consacrée au cours IS3, low-techisation et numérique, donc un cours de l'Université de technologie de Compiègne qui consiste à se former à des méthodes d'ingénierie de conception orientées vers des valeurs socio-écologiques. Donc on a une présentation du projet Framalet Migo qui consiste, vous nous l'avez bien expliqué, à concevoir une surcouche sur le web pour le simplifier. Dans votre titre, je pense même que vous avez utilisé le terme le démerdifier. À partir de là, je vais vous poser une question qui a été proposée par vos collègues. En fait, pourquoi est-ce qu'on en est là, en quelque sorte? On peut commencer à se demander, des enjeux de l'UV, c'est de revenir un peu à la racine des problèmes, de se poser les questions. C'est-à-dire, avant d'imaginer une surcouche au web, on pourrait dire que ça va encore compliquer avec un autre moteur de recherche, avec tout un collectif de gens qui vont devoir se poser des questions sur et discuter entre eux sur les sites qui sont convenables et les sites qui ne sont pas convenables selon tel ou tel critère. On aurait pu se demander, pourquoi est-ce qu'on en est là et qu'est-ce qui fait effectivement qu'on a aujourd'hui un web qui est aussi complexe, si alourdi, vous l'avez dit également, énergivore, en croissance, etc., etc. À vous la main, si vous le souhaitez.
Très bien, merci beaucoup pour cette question. Et en effet, ce projet, il part dans les racines d'une question assez commune qui est de rendre la navigation plus simple. Donc, il faut partir à la base que la navigation, elle est compliquée. Mais pourquoi elle serait compliquée ? En effet, on a souvent vu des pages internet, des pages web avec énormément de publicité, des pop-up qui apparaissaient à plein de moments. Quand on cherchait une information, on passait plus de temps à essayer d'avoir un espace où on pouvait voir cette information plutôt que de la chercher en elle-même. Donc ça passe aussi par les acceptations des cookies, mais surtout par le traçage des données. Beaucoup de sites internet aujourd'hui collectent nos données pour après les revendre et pour participer à de la publicité ciblée. Et donc c'était des problématiques où on voulait un peu essayer de s'en éloigner et de retourner vers quelque chose de simple, accessible, qui répond à un seul besoin.
Ok, donc je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais donc effectivement le problème de départ en quelque sorte, c'est un peu la structure commerciale quoi du web que là vous essayez de court-circuiter. En quelque sorte, allez, je vous pose quand même une autre question, vu que la réponse était concise. Peut-être qu'une autre question qu'on aurait pu se poser, c'est pourquoi est-ce que, pourquoi vous faites une surcouche sur le web et pourquoi est-ce que vous nous avez pas proposé plutôt un web qui repart de zéro en quelque sorte? Pourquoi pourquoi on recommence pas à partir de là? Je sais pas, on en a discuté un petit peu à la pause tout à l'heure, je sais pas si vous voulez réagir à ça.
Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est on s'est dit qu'on allait faire une surcouche justement parce que le fait d'en créer un autre, ça a déjà été fait, par exemple Gemini. Après, le succès de Gemini auprès des jeunes, par exemple, n'est pas immense. On n'en parle pas beaucoup, etc. Et puis, ce n'est pas quelque chose de très naturel chez nous. Donc, on s'est dit que repartir de ce qui existe déjà et en faire quelque chose d'amélioré et qui correspond mieux à nos valeurs était plus cohérent avec ce qu'on voulait faire. Et le plus de justement faire une surcouche, c'est surtout de ne pas revenir en arrière. C'est encore d'avancer, de faire croire aux gens que c'est du nouveau et peut-être que ça peut changer les choses, etc. Et du coup, le fait de ne pas revenir en arrière et que les gens ne se disent pas « Ah c'est nul, en fait, on repart à ce qu'on avait avant, un truc moins développé, etc. » Donc je pense que c'est à peu près tout.
Ok. Dans le cours, c'est un des éléments qu'on voit. On parle d'héritage et fermeture. Donc c'est cette idée qu'avant de changer quelque chose en profondeur, en fait, on n'a pas le choix, en quelque sorte, d'hériter de là où on en est. C'est un petit peu quand tu dis, nous les jeunes, on n'a pas entendu parler de Gemini. Bon, en fait, il n'y a pas que vous les jeunes. Stéphane, qui vous a suivi, a participé au moins à la promotion de ce projet. Donc il était effectivement très intéressant conceptuellement pour poser des nouvelles bases. Mais à un moment, la rupture est certainement trop forte par rapport à existant. Donc il y a cette tension entre effectivement hériter pour ensuite dans un deuxième temps organiser éventuellement la fermeture. Merci à tous les quatre. On était donc en studio, vous avez entendu Camille Guichard, Flavie Garcia-Forez, Gabriel Sell, Jean Rajonson. Vous avez été encadré, comme vous l'avez dit, par Stéphane Bosmeyer et Catherine Le Tondal. Vous avez également eu la collaboration de Julie Chartier qui a mené des projets de maquettage autour de vos projets. Donc à partir de vos conceptions, elle a réalisé des des maquettes, des débuts de développement que l'on pourra certainement consulter bientôt en ligne. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Oui, si pour retrouver les éléments de secours et pour découvrir votre projet, vous pouvez donc partir de l'onum.fr. Eh bien, si personne d'autre n'a rien à rajouter, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, puis on va se quitter là.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Au revoir.